Les rencontres électriques.
Les rencontres électriques au Festival des Vendredis électriques, 5e édition. Ça se passe à Fécamp tous les vendredis du mois de juillet. Nous sommes le 18 juillet et j'ai la joie de recevoir Vince. Bonsoir à toi.
Bonsoir.
La bienvenue, félicitations pour ce mix. Comment ça s'est passé?
Bah écoute, j'ai envie de te dire plutôt pas mal.
Ouais.
C'est cool.
T'es content, il y avait un peu de monde. Bon, j'ai vu qu'au début, toujours au début, les gens, le temps qu'ils arrivent, mais à la fin, il y avait de la bonne ambiance, j'ai vu que ça dansait, etc.
Ouais, l'idée, c'était que ça monte en puissance, et puis voilà, c'est vrai que quand tu passes en premier, il y a toujours un peu moins de monde, etc. Mais l'idée, c'était vraiment d'emmener les gens sur un style musical qui... Enfin, en tout cas, sur des références que les gens, forcément, connaissent pas, sur tout ce qui est soul, funk. Mais je vais attaquer direct parce qu'en fait il y avait deux petites qui ont dansé mais tout le set et en fait à la fin l'idée c'était de leur rendre hommage à ces petites parce que avec un morceau de Nino Godfunk qui s'appelle Muchaku et en fait l'idée c'était de ramener tout le monde au niveau de la scène et ça a plutôt bien marché, c'était cool.
Pour faire les présentations, Vince, t'es un personnage un petit peu emblématique maintenant dans cette ville de Fécamp. On m'a vendu le morceau comme ça, en tout cas.
Ah ouais, okay.
Tu tiens la boutique Plage Sonore à Fécamp, qui est devenue un repère incontournable pour les collectionneurs. On va parler un petit peu de ça. Comment ce projet a-t-il vu le jour et quel chemin tu as parcouru et quel chemin il a parcouru ce projet pour exister au cœur de la scène locale vinyle?
Alors, il y a eu plusieurs choses. Dès le départ, en fait, il y a des histoires comme ça qui commencent et tu te dis mais c'est incroyable, il y avait une espèce de logique en fait. Il y a 7-8 ans, j'ai mis en place un groupe sur Facebook qui s'appelle Vinylerie, où ça regroupait, l'idée était de regrouper des passionnés de vinyle et de son, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et l'idée c'était de faire un petit groupe de 500 membres, et ça a pris une ampleur... assez importante, qui était de 3000 personnes. Enfin, maintenant, on a 3000 membres. Et il y a eu le Covid. Et en fait, je fais partie de ces gens qui, à un moment donné, ont souhaité, dans leur vie, changer de cap, vraiment, et de se lancer dans une aventure un peu délirante, parce qu'on m'a dit... On m'a traité de fou. À un moment donné, on m'a dit, mais t'es malade d'ouvrir un shop de disques vinyle sur Fécamp. Et l'idée, ça a été de vraiment de tenir le cap. Et maintenant, ça fait 4 ans, quoi, mine de rien.
Et oui, 4 ans de belle histoire.
Ouais.
On a bien senti cette passion vinyle. Alors parlons-en un petit peu. Vince, qu'est-ce qui t'a attiré au début? Pourquoi le vinyle? Depuis quand ça date?
J'ai envie de te dire depuis ma naissance, je crois.
C'est vrai.
Ouais. J'avais un papa qui était à l'époque, il y avait que le vinyle, le CD n'était pas encore arrivé. Donc ce qui fait que il y avait déjà la culture de la musique déjà à la base, et puis ensuite le support c'était le vinyle quoi à l'époque. Il y avait que ça quoi en fait, et puis les cassettes, etc. Mais en fait ça m'a jamais lâché quoi en fait. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé qui était un peu un drame pour moi, c'est que, en fait, avec l'arrivée du CD, mon père a jeté tous les vinyles qu'il avait. Et il y a maintenant 30 ans, ça fait peur. Hein.
À des fois, je comprends.
Waouh, t'étais même pas encore là, je crois.
Oui, il y a 30 ans, j'avais de l'avance encore.
Voilà, c'est ça, t'étais en mode de projet. Et il y a 30 ans, je me suis mis à me dire, je vais essayer de retrouver toutes les références que mon père avait. Et donc Pink Floyd, Jimi Hendrix, les Rolling Stones, des choses comme ça. Le vinyle, moi, ne m'a jamais réellement quitté, quoi, en fait.
Eh bien, tu as peut-être à moitié répondu à ma prochaine question, parce que tu insistes sur le fait qu'un vinyle, ça doit sortir de sa pochette et être partagé, ça peut pas rester à l'intérieur. En quoi cette approche fait-elle sens pour toi? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui te donne envie de partager les vinyles? Peut-être justement d'avoir cherché toutes ces références pour les partager. Qu'est-ce qui résonne en toi quand tu partages?
Quand je partage, en fait, l'idée première, c'est de se dire, c'est un objet, et je crois que l'être humain a besoin d'un objet avec les streaming, les MP3. Il y a eu une étape dématérialisée, et aujourd'hui, vraiment, je constate même au niveau des jeunes que l'objet vinyle revient. Et il y a toute une partie éducative par rapport à l'écoute du vinyle. Alors je suis pas un ayatollah de dire il faut écouter que du vinyle, mais voilà, on est sur une autre approche de la musique avec le, avec le, avec le support. Et donc, pour répondre à ta question, qui était, je suis désolé, j'ai une perte.
Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui résonne pour toi? Pourquoi le vinyle? Et pourquoi il faut le partager? Qu'est-ce qui fait sens dans...
Alors, au-delà du support vinyle, c'est de partager vraiment de la musique. Après, le vinyle ne reste, entre guillemets, qu'un support. Mais l'idée, c'est vraiment de partager et de faire découvrir des choses. Voilà. Là, en l'occurrence, on va rebondir un petit peu sur ce qui est mon métier aujourd'hui de disquaire indépendant. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui se remettent au vinyle, comme moi, quand j'y suis retourné, c'est qu'on recherche vraiment les basiques, entre guillemets. Voilà. Et moi, mon rôle, en fait, en tant que disquaire, c'est vraiment de leur faire découvrir d'autres choses qui sont en lien avec ce qu'ils écoutent, hein, dans les différents genres, mais d'arriver à leur faire découvrir vraiment... d'autres artistes qui correspondent plus ou moins à leurs attentes. Et en général, ça matche bien, quoi. Mais voilà, le vinyle, aujourd'hui, il y a une espèce de symbolique aussi de tout le monde le dira, quoi. En fait, c'est qu'à un moment donné, on sort le vinyle de sa pochette, c'est un objet. Il y a des artistes qui ont vraiment fait des objets qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et... je dirais que le son en fait fait partie de l'objet en fait, voilà, intégrante, et c'est voilà le vinyle, en tout cas le disque vinyle, la cover, l'artiste fait un tout, et ça reste là, il y a un vieux blanc, tu vas couper. Hein,
c'est pas sûr. Grave. Il n'y aura pas de montage.
Il n'y a pas de montage.
Ah non, il n'y a pas de montage. C'est la magie du quasi direct.
Vache. En fait, il y a une espèce de lien qui se fait entre, en tout cas, voilà, le streaming, on consomme.
Ouais.
Voilà, on consomme un morceau ou deux. Comme ça, on se fait un peu une idée. Alors que le vinyle, l'idée, c'est de s'obliger à écouter l'œuvre dans sa globalité.
Il y a autre chose qui m'a frappé quand j'ai parlé avec des gens qui étaient pareil, passion vinyle, avec Fabien, peut-être que tu vois qui c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il m'a dit en tout cas, sur les vinyles, il y a tous les crédits. Il y a énormément de crédits, toutes les personnes qui ont participé, les labels, les musiciens, ceci,
exactement,
cela.
Ouais.
Ce qui est un petit peu perdu maintenant avec le streaming. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça?
Alors. Moi, je suis déjà dans l'émotion à la base.
Okay.
Voilà. Donc, les crédits, tous ceux qui sont derrière, je dis pas que c'est secondaire parce que c'est vraiment des gens qui ont bossé pour la création. Mais quand on regarde les crédits, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des surprises. Enfin, notamment dans le jazz, où on prend un artiste comme Herbie Hancock ou Miles Davis, on va retrouver les mêmes derrière, en fait. Souvent les mêmes. Et c'est ça aussi la magie, c'est qu'en fait, chacun apporte sa couleur, mais souvent, dans les années 60, 50, 60, on retrouvait relativement les mêmes personnes qui étaient derrière. Donc ouais, les crédits, ouais, ça a leur importance, évidemment, puisque là, pour le coup, ce sont des gens qui ont été producteurs, enfin, qui ont été vraiment les créateurs du produit final, mais en tout cas de l'écoute finale. C'est pas un artiste, il n'est pas tout seul, quoi, en fait. Voilà. Il y a plein de gens derrière et c'est aussi un respect par rapport à toutes ces personnes, quoi, vraiment, quoi.
On a parlé de ton métier de disquaire et puis de ton activité de DJ. Alors, justement, comment, tu ne te contentes pas de vendre des vinyles, tu mixes aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de la boutique aux platines? Et est-ce que tu as vraiment passé de la boutique aux platines ou tu mixais déjà avant d'avoir ta boutique?
Ouais, c'était plutôt le contraire.
C'est plutôt le contraire.
J'avais vraiment déjà cette envie de partage, de passer des tracks qui sortaient un peu de l'ordinaire, quoi, déjà, et d'ouvrir un peu les chakras, quoi. L'idée, c'était pas de, alors attention, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, par rapport à ça, mais bon, l'idée, moi, c'était pas de passer du Bonnet M ou du ABBA dans le disco, par exemple. Il y a d'autres artistes dans le disco qui sont un peu underground mais qui sont vraiment très intéressants. L'idée, c'était vraiment de partager et d'ouvrir un peu les chakras. Ce que j'ai fait ce soir, en fait, par rapport à mon mix, il y a très peu de gens qui connaissaient ce que je passais, Mais ce qui n'a pas empêché de se dire, mais ouais, tiens, en fait, il est mortel ce morceau. Merci Shazam.
Et oui, l'inconnu n'est pas inintéressant.
Non, non, carrément.
Et oui, donc justement, tu es réputé pour sortir des pépites rares. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote où tu as découvert un disque qui t'a scotché ou un coup de cœur inattendu?
Ouais, il y en a un que j'ai passé d'ailleurs ce soir. C'était un album de Baby UB. Alors, il y a plusieurs morceaux, mais donc là, en l'occurrence, celui qui vient tout de suite, c'est Hard Time, mais c'est pas celui que j'ai passé ce soir. Mais cet artiste, en fait, il a tout raté, quoi.
Aïe.
Ouais, il a tout raté, et en fait, c'est un artiste qui a pas du tout fonctionné. Donc, Baby UA, en fait, tu connais le club des 27, ceux qui sont tous morts à 27 ans. Lui, il est mort à 26.
Ah oui.
Déjà pour commencer.
Encore une fois, voilà, c'est un raté.
C'est un raté. Et puis, en fait, du coup, il est mort. C'est un peu dramatique raconté comme ça, mais en fait, il est décédé avant la sortie de son album. Ce qui fait que. Qui était produit, et là je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui a été produit quand même par Curtis Mayfield, qui est un ponte au niveau de la soul funk, vraiment, des années 70. Et en fait, ce disque-là a mais vraiment pas marché, quoi, en fait. Et en fait, ce qu'il a proposé, c'était du funk psyché, quoi, en fait. C'est vraiment un truc qui était vraiment à part à l'époque. Et en fait, il a été remixé, enfin, il a été samplé, voilà. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, Baby UA est une légende. En fait, il est devenu une légende par rapport à son histoire, parce qu'il était multi-addictif aux produits illicites. Aujourd'hui, en fait, enfin voilà, c'est un délire parce que ce mec-là n'a pas connu la gloire. Il est mort avant ce fameux club des 27. Et aujourd'hui, en fait, en tout cas, moi, c'est le disque que si je devais partir sur une île déserte, il fait partie du top 10. Et j'ai envie de te dire le numéro 1 des disques que j'emmènerai avec moi, quoi.
Eh bien, c'est bien, ça m'a donné des petites idées de questions. Qu'est-ce qu'on emmènerait comme disque si on était condamné à aller sur une île déserte. Est-ce que tu prendrais tes platines avec toi?
Ouais, mais carrément.
Ouais. Forcément, ouais. Un petit groupe électrogène, des platines et des vinyles. Et
voilà.
Puis...
Et puis voilà, Baby UA en premier. Après, bon, je suis très barré électro. Je suis un gros fan de Daft Punk.
Ah ouais.
Depuis le départ. Ah,
ça, je comprends. Moi, je vais me livrer. Quand il y a un morceau des Daft Punk qui passe, je suis incontrôlable.
Voilà.
Je suis pas un gros danseur. Hein,
ouais, ouais.
Mais les Daft Punk, ça me met hors de moi.
Voilà. Bah écoute, ils sont à la boutique en grandeur nature. Donc pour ceux qui ont...
C'est un clin d'œil.
C'est un petit clin d'œil, mais voilà. En tout cas, moi, c'était un projet. En fait, c'est un délire parce que j'ai eu la chance de récupérer deux casques qui ont été faits par quelqu'un qui faisait du cosplay. Donc voilà, je les ai mis sur des mannequins. Ils sont grandeur nature et ils sont dans la boutique en permanence depuis un an, quoi.
Eh bien, ça fait une belle invitation pour toutes et tous, chers auditeurs et auditrices, vous inviter à aller découvrir cette boutique et découvrir ces grands Daft Punk que vous aurez le plaisir de voir. Merci beaucoup Vince pour ton temps et pour ces réponses. Je vais te laisser manger quand même parce que
je crois que c'est la première interview de ma vie où, enfin déjà, j'en fais pas énorme, où il y a un hamburger et des frites.
Et oui, et qui reste intact pendant toute l'interview, ça c'est fort. Bah, merci beaucoup.
C'est moi.
Je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie encore une fois pour ce beau set que tu nous as partagé ce soir. On peut te retrouver sur Facebook et à la boutique Plage Sonore. Donc tu as l'adresse à Fréquence.
42 rue du Casino.
42 rue du Casino.
À 30 mètres de la plage.
Oui, voilà.
Et puis je suis sur Instagram aussi. Quoi.
Voilà. Ouais. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. On va pouvoir te laisser manger tranquillement. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Et puis en attendant, chers festivaliers et festivalières, on se retrouve. Eh bien, la semaine prochaine, le 25 juillet, pour finir cette saison des Vendredis électriques. Et on espère vous voir nombreux et nombreuses. Salut à tous.
Les rencontres électriques.